Je me crois en enfer, donc j'y suis. Une saison en enfer, Arthur Rimbaud.
L'histoire de Mina. Le printemps de Petrouchka, août 1968. Je m'appelle Mina. Je suis née en 1956, en Tchécoslovaquie, un pays qui n'existe plus. Un pays dont les plus jeunes doivent croire qu'il n'a jamais existé. Un pays au nom presque impossible à prononcer. Alors je préfère dire que je suis née en Bohême. Je sais que ce nom fait rêver, en France. C'est juste une question d'accent. La Bohême que les Français aiment, celle des artistes et de l'insouciance des mansardes de Paris et des poètes maudits, celle de Rimbaud et d'Aznavour, s'écrit avec un accent grave. La mienne porte un chapeau. Bohême. Un couvercle. Un ciel de fer. Je ne le savais pas encore en 1956, quand je suis née, à Prague, dans le quartier de Vyšehrad. Mon père était professeur de dessin à l'UMPRUM, l'école des arts appliqués de Prague, et ma mère, professeure de français au lycée Václav Hanka. Des intellectuels privilégiés. Nous habitions un grand appartement donnant sur la rue Seletna. Mes parents écoutaient Smetana et Dvorak. Les violons de la Moldo ou de la Symphonie du Nouveau Monde résonnaient jusqu'au pont Manès. Ils lisaient Čapek et Kafka, et bien entendu beaucoup de littérature française. Il paraît même que maman avait accroché un portrait d'Arthur Rimbaud au-dessus de mon berceau et me récitait ses poèmes. C'était une enfance heureuse, à écouter les musiciens sur le pont Charles, et surtout à assister dès que je le pouvais au spectacle de marionnettes du théâtre Speibel et Urwinek. Mon père était l'ami de Józef Skupa, le plus grand marionnettiste du monde. Il dessinait ses décors. J'avais même dans ma chambre une photo de Skupa me portant sur ses genoux, quelques mois après ma naissance, quelques mois avant sa mort. Peut-être mon amour des marionnettes est-il né de ce simple cliché. Est-ce Józef Skupa, en jouant avec mes bras de nourrisson comme avec ceux d'un pantin de chiffon, qui m'a insufflé cette vocation ? Ma vie était un conte de fées, une vie de bohème en bohème. Prague n'était qu'une immense scène sur laquelle je jouais, en français le plus souvent. J'étais presque bilingue à 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'était le printemps. Je n'avais jamais vu mes parents aussi souriants. Ils réunissaient tous les soirs des amis dans notre appartement. Ils buvaient du vin français en parlant de mots et de noms que je ne connaissais pas. Socialisme à visage humain, printemps des peuples, Alexander Dubček. Un soir, je me suis endormie, tard, dans les bras de maman. Les derniers souvenirs que j'ai emportés dans mes rêves furent des rires d'adultes, la fumée des cigarettes des femmes qui discutaient au balcon, la chaleur de la nuit, les notes de piano, le frottement sur mes joues de la moustache de mon père, un frisson. Un dernier frisson quand il m'embrassa, quand maman nous borda, les marionnettes et moi, celle offerte par Skupa lui-même, Urwinek, Manika, son ami aux cheveux rouges, son chien Zéric, et surtout mon préféré de tous, mon doudou, mon chouchou, Petrouchka. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, la terre tremblait. J'ai juste eu le temps d'attraper Petrouchka. L'instant d'après, l'appartement a explosé. Quand je me suis réveillée une seconde fois, j'étais couverte de poussière et de gravats. Des murs art nouveau dont parlaient avec fierté les amis architectes de papa. Il ne restait plus qu'une façade déchiquetée. Partout, des gens hurlaient, couraient, fuyaient. Qui ? Quoi ? Où étaient maman et papa ? Je ne savais rien alors, du haut de mes 12 ans. Je ne savais pas qu'un 500 000 de soldats étrangers, 6 000 chars, près de 1 000 avions venaient d'envahir la Tchécoslovaquie et bombardaient Prague. Je ne savais pas qu'il fallait opposer autant de canons à des familles qui rient, chantent, lisent et fument au balcon. Je ne savais pas que le visage humain du socialisme, dont avaient rêvé mes parents, allait être piétiné par les bottes russes de l'opération Danube. Où étaient maman et papa ? J'ai crié, je les ai appelés. Et j'ai fui, moi aussi. J'ai vu des centaines de parachutistes tomber du ciel. J'ai croisé des milliers de manifestants. Ils bandaient les yeux des statues. Ils déplaçaient les panneaux de signalisation. Espéraient-ils que cela suffise à égarer les tanks russes? J'ai erré pendant des heures dans les rues de Prague, avant de m'effondrer au pied du pont Charles, près d'un garçon d'à peine 3 ans de plus que moi, qui jouait du violon pour couvrir le bruit des mitraillettes. J'étais seule, avec Petrouchka. Où étaient maman et papa? Je n'ai jamais eu la réponse. Tués dans le bombardement de notre appartement rue Seletna? Emprisonnés comme la plupart des intellectuels engagés lors de la prise de Prague? Assassinés par les conservateurs qui avaient ouvert les portes du pays? Je ne le savais pas encore, mais je n'étais qu'une des milliers de petites fées jetées à la rue, punies parce que leurs parents avaient cru à une utopie. Il faut briser les rêves des enfants avant qu'ils n'y croient vraiment et qu'on ne soit obligé de les tuer, une fois grands. Quand je me suis réveillée sous le pont Charles, le garçon au violon était parti. Petrouchka dormait toujours entre mes bras. « Bonjour », m'a dit le mort.
« Comment tu t'appelles ?»
Le mort se tenait debout à côté de moi. Sa bouche s'ouvrait et se fermait au rythme des mots qu'il prononçait. Ses bras et ses jambes remuaient tels des vrais, fins et musclés. Il s'est élevé dans les airs plusieurs secondes, puis il est retombé avec la légèreté d'une plume de corbeau. Dans le soleil du matin, les fils d'argent étaient presque invisibles. Pas une fois je n'ai eu envie de lever les yeux et de voir à quoi ressemblait le marionnettiste qui lui donnait vie. J'ai attrapé ma poupée de chiffon et je l'ai moi aussi animée. J'étais la meilleure, une marionnette à fil entre les doigts à l'école du théâtre de Skoupa. « Tout le monde m'appelle Petrouchka. »«
Tu es perdue ?»«
Je crois, oui. »
« Tu te débrouilles bien. Tu es douée. »
Je me suis mise à danser autour de lui. « Merci. » Le mort a souri, agité ses paupières, dodeliné de la tête, exactement comme un garçon intimidé l'aurait fait. Jamais je n'avais vu un marionnettiste donner à un pantin une expression aussi réaliste.
« Si tu es perdue, tu veux venir te reposer quelque temps avec moi ?»
J'ai regardé les cadavres le long du quai, les chars alignés le long de la Vltava sur les pelouses du parc Kampa, le drapeau rouge flottant sur le château de Prague, les flammes et les fumées qui s'élevaient d'un peu partout. Et j'ai dit oui. Libor Slavik avait à peine 25 ans. Il se faisait appeler Luka. Même si j'étais trop jeune pour réellement pouvoir posséder un avis éclairé, je crois qu'il était un très bon marionnettiste. Il tournait avec sa roulotte en Tchécoslovaquie et au-delà, dans tous les pays du pacte de Varsovie depuis plusieurs années. Libor était beau. Il avait cette grâce des Hercules de foire qui peuvent se transformer en ballerines. Ce magnétisme des magiciens à la frontière du réel, ce charme joyeux des bonimenteurs, et des yeux gris, de lave ardente, qui vous brûlait dès qu'il vous regardait. Libor était beau, mais marié, et père de 2 garçons de 4 et 3 ans, Christophe et Amos. Il circulait, libre et insaisissable, sur les routes de Bohême et d'Europe centrale, avec ses fils et sa femme Suzanne. Lors de leurs escales, quand ils garaient leurs roulottes sur les places des villages, Suzanne interprétait la ballerine, et Libor Petrouchka ou le mort. Libor exécutait aussi des tours de magie, jonglait, crachait du feu. Suzanne prédisait la bonne aventure. Elle possédait un certain talent pour cela. Les villageois de Bohême, de Moravie ou de Silésie l'écoutaient avec crainte et respect. Je dois l'avouer, Suzanne me fascinait. Libor et Suzanne m'ont emmené très vite, très loin, vers la frontière autrichienne. S'éloigner de Prague, c'était leur seule obsession. S'éloigner des villes. Se rendre là où l'on ne poursuivait pas les artistes. Je les ai suivis, aveuglément. Qu'aurais-je pu faire d'autre? J'ai grandi sur la route, j'ai dormi dans des granges, j'ai mangé sur des marchés, j'ai fait rire aux éclats des milliers de Tchèques en faisant valser Petrouchka avec l'ours dansant, et j'en ai fait pleurer des milliers quand Petrouchka agonisait, frappé par le sabre de bois du mort. Petrouchka était devenu mon rôle favori. Je m'étais coupé les cheveux très courts, je m'habillais à la garçonne, j'enroulais mes seins dans une écharpe pour les aplatir. Je ressemblais à ma marionnette, jeune, belle, légère. Libor interprétait un maure violent et fort, et Susanna, une ballerine manipulatrice, jalouse et sublime. Christophe et Amos grandissaient, eux aussi. Des enfants de la route, comme moi. Je m'occupais beaucoup d'eux, davantage que Susanna. J'ai même souvent pensé qu'ils ne m'avaient recueilli que pour cela. Christophe n'avait peur de rien, pas même de tirer les oreilles de Kinski, notre jument, ou de tenter de cracher du feu comme son papa, avant même de savoir lire ou compter. Amos était plus calme, plus doux. Il aimait écouter et raconter des histoires. Il pouvait rester des heures à contempler un coucher de soleil sur les monts des géants, ou à en reproduire les couleurs avec des crayons qu'un instituteur, fasciné par ses croquis à la craie sur le béton d'un mur d'école, lui avait offert. J'étais leur maman, leur nounou, leur grande sœur. Je me réveillais avec eux, je mangeais avec eux, je dormais avec eux. Du moins, j'essayais. J'essayais de ne jamais être seule avec Libor. La première fois qu'il m'a violée, j'avais 13 ans. C'était dans un champ près de Pilsen, pendant le festival de marionnettes, moins d'un an après le printemps de Prague. Il a recommencé souvent, de plus en plus souvent, presque chaque soir, quand Susanna dormait dans la roulotte. Je posais mon matelas à la belle étoile. J'attendais les yeux ouverts. Je savais qu'il viendrait. J'aurais dû fuir, mais je n'avais nulle part où aller. J'aurais dû fuir, mais Libor m'offrait un toit, une famille, un métier. J'aurais dû fuir, mais j'avais peur. Peur de me défendre, peur même de le haïr. J'aurais dû fuir, mais j'aimais Petrouchka. Et que serait-il devenu sans moi? Que serais-je devenu sans lui? Peut-être aurais-je fini par accepter cette vie, si l'accident n'était pas arrivé. Fut-il envoyé pour me punir ou pour me sauver? Bénédiction ou malédiction? Je crois que je l'ignore encore aujourd'hui.